serai le plus grand roi du monde.
J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Madame, vous avez entendu parler de la fusée lunaire. Est-ce que vous y croyez?
L'art est un monde qui n'a rien à voir avec la réalité.
L'hyperphosphorescence, c'est de la physique.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Stéphane.
Ah oui, très en forme, je vois. Bonjour David.
Bonjour.
Bonjour. Ben oui, bonjour Olivier Pouls.
Bonjour.
Vous êtes aussi avec nous aujourd'hui pour parler d'histoire de cuisine, évidemment.
Oui, absolument.
Ravi de vous retrouver, comme chaque après-midi sur Europe 1, pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, parce qu'ils ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont tout de même un point commun. Aujourd'hui, ils ont vécu dans la jungle.
Oh,
ah, je crois reconnaître ce cri. Bah oui, c'est Tarzan, évidemment.
Évidemment, Stéphane, enfin, Tarzan enfant, apparemment.
Oui, Tarzan à qui on a coupé quelque chose, à mon avis. Ouais, pas de Tarzan aujourd'hui, mais bien trois personnages qui ont vécu dans la jungle. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par l'écrivain Rudyard Kipling, qui a imaginé son célèbre livre de la jungle, Loin de la jungle, et a situé l'histoire non loin de là où il est né, et a vécu une partie de sa jeunesse d'ailleurs, en Inde. Puis lui a vécu dans la jungle des Philippines pendant près de 30 longues années. Je vous raconte la folle histoire de Hirohō Onoda, un soldat japonais persuadé que la guerre n'était toujours pas terminée. Et après les morts, le vivant, et même la vivante. C'est vous, Jean-Luc Lemoine, qui allez dresser le portrait de notre troisième personnage du jour.
Oui, une vivante qui a bien failli ne plus l'être il y a 20 ans déjà. Je vous raconte la franco-colombienne Ingrid Betancourt, qui était retenue en captivité par les FARC dans la jungle amazonienne durant 6 ans. Même Mundir de Koh-Lanta n'a jamais fait ça.
Bah oui. Eux aussi, on les retient dans ce studio, mais ils sont consentants, hein, en fait. Celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach. De quoi allez-vous nous parler, Clémentine ?
Eh bien, d'une célébrité, Léo le lion. A-t-il jamais vécu dans la jungle ? Bah peut-être jusqu'au jour où un employé de la MGM a eu l'idée d'utiliser son image pour le logo du studio. Car Léo est ce lion qui rugit dans une sorte d'entrelacs de rubans dorés. Alors est-ce qu'il a vraiment dévoré son dompteur ? Est-ce qu'il a vraiment été filmé par Hitchcock ? Je sens que vous mourrez d'impatience à l'idée d'avoir la réponse.
Et puis, lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent les siennes, c'est David Castello-Lopez. Alors, de quoi allons-nous parler avec vous
aujourd'hui de cet instrument que je pense que on a tous connu au collège, l'instrument de musique, la flûte à bec.
On
en a tous fait.
Là voilà. Là.
Ah, c'est moi,
de la joie. C'est...
Non, j'ai aussi elle qu'on dort pas ça.
Mais, c'est pour ça qu'on est le pays avec le moins bon enseignement musical. Bah,
c'est probablement pour ça.
Au lycée.
Et si un jour il y a une compétition de flûte à bec au niveau mondial, là on sera là quand même.
Là, oui, là, on sera là.
Ouais, mais je peux vous dire que moi qui ai fait mes études en Belgique, on avait droit à la même flûte à bec.
Non, c'est vrai.
Mais vous copiez tout sur la France.
Les origines, c'est en toute fin d'émission désormais. Et juste avant, comme dirait l'autre.
Mais aïeux, quelle époque, mais aïeux, quelle époque.
Ça s'est passé dans le passé et c'est toujours présent dans le présent. Aujourd'hui, on remonte au temps de l'homme de Cro-Magnon, au temps de l'invention de la cuisine avec vous, Olivier Pouls.
Oui, ça paraît tout bête, mais avant Cro-Magnon, on cuisinait pas. Depuis Cro-Magnon, on cuisine. Qu'est-ce qui a changé ?
Oui.
Est-ce que des recettes nous sont parvenues encore, peut-être ?
Oui. Ah, peut-être, oui.
Vous allez voir, il avait des ressources incroyables, Cro-Magnon. Il a inventé un nombre de trucs, vous n'avez même pas idée.
Il était vegan ?
Lui, non. Son très, 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 très lointain ancêtre avait des tendances plutôt vegan, mais lui, non, il était plutôt bouffeur de barbac. Oui.
D'accord. Il m'a semblé en voir un dans Top Chef ou Master Chef.
De Cro-Magnon ?
Oui, de Cro-Magnon. Je ne vous dirai pas qui. Mes aïeux, quelle époque, ce sera vers 6h moins le quart.
On oublie rien, Stéphane ?
Oh, si, peut-être, mais là, présentement, je ne vois pas.
Ben, faites un effort, écoutez.
Ah oui. Si je devais être totalement complet, je devrais annoncer effectivement le quiz Burn to be Alive, ça sera de 45 minutes. Ben, je crois que je n'avais pas vraiment le temps de dire.
Dommage, c'est dommage, vraiment, c'est un rendez-vous que les gens attendent.
Oui.
C'est cette humiliation permanente.
Quoi qu'il en soit, restez bien avec nous. Je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1. Historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il paraît qu'il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Oh, c'est pas moi, c'est l'ours Balou qui le dit, qui le chante même dans le livre de la jungle. Une jungle sur papier, avant le dessin animé, née de l'imaginaire d'un écrivain et des souvenirs de son Inde natale, Je vous raconte maintenant Rudyard Kipling. Nous sommes en décembre 1892 aux États-Unis, dans les environs de la ville de Brattleboro, dans le Vermont, au nord-est du pays. D'ordinaire, couvert de forêts verdoyantes et de lacs scintillants, le paysage montagneux de la région est, en cette saison, habillé d'un épais manteau de neige de plusieurs dizaines de centimètres. Depuis la fenêtre de son modeste cottage rural, Rudyard Kipling, alors âgé de 26 ans, contemple ce paysage hivernal les yeux dans le vague. On lui donnerait au moins 10 ans de plus. Brun, les cheveux coupés très courts, son visage est vieilli par une lourde moustache cachant une partie de sa bouche et par des lunettes aux verres épais. Rudyard Kipling a beau faire plus âgé que son âge, son âme, elle, revêt une ressemblance avec celle des enfants. Si ses yeux sont ainsi perdus dans le vague en ce jour de neige, c'est que son imagination fertile a transporté son esprit ailleurs. Son corps est bien dans ce petit bureau d'un cottage du Vermont, mais ses pensées, elles, se baladent dans une contrée lointaine, à l'ombre d'arbres tropicaux gigantesques, dans une jungle où vivent des animaux sauvages et fascinants. Est-ce la naissance imminente de son premier enfant ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, l'écrivain se sent plus inspiré que jamais. Une histoire lue récemment a enflammé son imaginaire, celle d'un enfant zoulou ami avec une meute de chiens sauvages. Cette nouvelle a réveillé quelque chose chez lui, comme si elle résonnait avec sa propre enfance. Là, assis face à cette fenêtre, en partie obstruée par la neige, Rudyard Kipling pose sur le papier tout ce qu'il voit dans sa tête. Son stylo court si vite sur le papier qu'il semble animé de son propre dessin. Il raconte une histoire plus grande que nature, celle d'un petit garçon, non pas zoulou, mais indien. Un petit garçon séparé de ses parents et élevé dans la jungle par une famille de loups. Ce petit garçon a un nom, Mowgli.
On raconte plus d'une histoire étrange sur la jungle de l'Inde. Mais aucune n'est aussi singulière que celle d'un petit garçon nommé Mowgli. Cela commença le jour où, dans le silence de la jungle, un bruit insolite se fit entendre.
Pour nombre d'entre nous, la jungle, ce fut d'abord la végétation exubérante du décor d'un Disney, son ambiance sonore envoûtante. Le doux murmure d'un torrent, le babillement des oiseaux et la voix d'une panthère, d'un ours, d'un tigre et de singes qui parlent et qui chantent. Difficile de croire que le livre qui l'a inspiré a été écrit dans le Vermont et sous la neige, loin, très loin de toute jungle. Et pourtant, c'est que Rudyard Kipling n'a pas toujours vécu dans le Vermont. À même pas 30 ans, il a déjà énormément voyagé. Il a même fait le tour du monde. Mais un pays surtout l'accompagne partout, l'Inde. Lui qui est né à Bombay de parents britanniques se sent habité par cette terre natale qui ne le quitte jamais. Il se souvient encore de l'émoi ressenti lors de son retour là-bas à l'âge de 16 ans, après 11 années d'exil en Angleterre, de ce qu'il avait ressenti en reposant les pieds sur ce sol originel. Pour comprendre ce que l'Inde représente pour Rudyard Kipling, il faut se plonger dans sa jeunesse. Imaginez le bonheur sans tache du petit garçon qu'il a été à Bombay. Son enfance passée auprès de ses parents dans l'enceinte de l'école d'art où enseigne son père. Une enfance, au plus proche de la nature, a joué dans un jardin luxuriant. Un Éden, où les fleurs étaient plus hautes que des cheminées et où vivaient des perroquets verts et des écureuils qui mangent dans la main, se souvient-il. Puis, il faut imaginer ce même petit garçon, à même pas 6 ans, que l'on arrache à tout cela, que l'on envoie en Angleterre durant de longues années loin de ses parents. Oh, rien de très exceptionnel dans la société anglo-indienne à l'époque. C'était ainsi. On exilait très jeune les enfants pour qu'ils grandissent en métropole. Mais pour le petit Rudyard, c'est un déchirement. La fin de l'innocence. La famille qui les accueille, lui et sa petite sœur d'à peine 4 ans, est cruelle. Leur maison est une maison de la désolation, pour reprendre ses mots. Le calvaire dure 6 ans. Jusqu'à ce que sa mère, Alice, vienne s'installer en Angleterre et l'inscrive au collège. Des années paisibles, voire heureuses. Mais très vite, c'est une nouvelle déchirure. Ses parents n'ont pas les moyens de financer des études à l'université. Il faut lui trouver un travail. Son père lui dégote un poste de journaliste à Lahore. Goodbye l'Angleterre. Au revoir ses amis. Rudyard Kipling embarque via le canal de Suez pour l'Inde britannique qu'il n'a pas revu depuis si longtemps. Le départ est cruel. Mais sans le savoir, Rudyard fait en réalité route vers une terre qu'il habite encore. Au débarquement à Bombay, c'est toute son enfance qui le prend à la gorge. Les couleurs, les odeurs, la langue, les intonations. La ville tout entière est une Madeleine de Proust. Durant les 3 ou 4 jours de train qui le mènent à Lahore, une métamorphose s'opère. L'Angleterre n'est plus qu'un lointain souvenir. Les 6 années qu'il va passer là-bas, dans cette région qui appartient désormais au Pakistan, vont devenir les années les plus décisives de sa vie. Celles durant lesquelles il va se découvrir une passion dévorante pour l'écriture, une passion et un talent hors du commun. Celles durant lesquelles aussi il s'imprégnera tant et si bien de l'Inde qu'il en tirera une source d'inspiration quasi inépuisable. Une source qui nourrira ses œuvres durant plusieurs années, et notamment bien sûr les 2 tomes de son chef-d'œuvre, le Livre de la Jungle. Enfin, si l'on veut, car le lieu choisi pour la trame de l'histoire n'est pas celui où il vit. Les paysages décrits dans son livre, Rudyard Kipling ne les aurait jamais vus. Ces lieux qu'il mentionne au fil des pages et qui situent l'histoire dans la forêt de Seoni au nord de l'Inde, dans l'état de Madhya Pradesh, il ne les connaît pas. 1000 kilomètres séparent Seoni de Lahore. 1000 kilomètres séparent aussi Seoni de Bombay. En revanche, Kipling a lu bien des choses à son sujet. Un récit surtout l'a énormément marqué. Celui d'un naturaliste anglais, Robert Armitage Sterndale. La jungle, Kipling n'y a vécu que dans sa tête. Intensément, certes, mais pas pour de vrai. Son univers à lui, c'était plutôt celui de l'étroite société anglo-indienne. En témoignent ses premiers récits et poèmes, comme le recueil de nouvelles « Simples contes des collines » écrit lorsqu'il était journaliste à Lahore. Ce sont ces textes qui firent sa renommée bien avant le Livre de la jungle, car Kipling est un auteur qui rencontre très tôt le succès. À peine plus de 20 ans, ses contes sont lus jusqu'en Angleterre, des contes qu'il écrivait déjà à cette époque d'une plume enfiévrée et frénétique. Un collègue qui travaillait avec lui à Lahore raconte qu'il était dangereux de l'approcher à son bureau tant l'encre coulait à flot. Dans ce climat chaud, ses vêtements blancs étaient tachés de telle sorte qu'on aurait cru un dalmatien plutôt qu'un homme. Cette passion de l'écriture, cette pulsion, Kipling l'emporte partout avec lui. Durant son tour du monde en 1889 à travers l'Asie puis les États-Unis, à Londres ensuite durant ses années bohèmes, dans le Vermont encore où il s'installe en 1892 avec sa jeune épouse Caroline, elle le suit évidemment aussi à son retour définitif en Angleterre en 1896 à l'âge de 31 ans, jusqu'à lui valoir le prix Nobel de littérature 11 ans plus tard, en 1907. Un honneur immense, il est le premier Anglais et le plus jeune auteur jamais récompensé par cette distinction internationale. Parmi ses œuvres les plus marquantes, on peut citer « Capitaine courageux », « Kim » ou encore « Histoire comme ça », paru en 1902. On peut citer des poèmes aussi, « Mandalay », Mungadin ou encore Si, If en anglais. On peut aussi citer un livre beaucoup moins connu mais touchant, son autobiographie dans laquelle on découvre un Rudyard Kipling intime, l'envers d'un personnage que l'on critiquera beaucoup pour son adhésion à la politique colonialiste. Un personnage avec les travers de son temps que la vie certes a gâté, mais qu'elle a aussi terriblement malmené sur le plan personnel, alors que 2 de ses enfants lui sont arrachés trop tôt. Sa fille de 7 ans d'une pneumonie, puis son fils de 18 ans, durant la guerre en 1915. Ce livre, Kipling n'a jamais pu l'achever. Il a été publié en 1937, un an après sa mort, et 46 ans après son livre de la jungle, qui a marqué sa vie à tout jamais.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Rudyard Kipling avec Jean-Luc Lemoyne et Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un autre brillant écrivain qui a fait de Kipling son auteur favori. Bonjour Pierre Assouline.
Bonjour Stéphane Bern.
Pierre Assouline, vous avez publié un roman « Tu seras un homme, mon fils » du nom d'un poème écrit par Kipling pour son fils mort dans les tranchées. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette relation filiale ?
Eh bien, elle illustrait parfaitement à mes yeux une question que je me posais depuis très longtemps, à savoir jusqu'où un père ou une mère, peu importe, un parent, est-il responsable du destin de son enfant ? Par exemple, vous savez, moi, ma mère, chaque fois que je voyage, elle me demande où je vais. Elle a 92 ans. Et si je lui dis je vais en Suisse, elle me dit « Ah, n'oublie pas de mettre un bonnet parce qu'il fait froid en Suisse, il y a des montagnes. » Je lui dis « Tu sais, à mon âge quand même. » Elle me dit « Non, tu, on n'est jamais assez prudent, je te connais. » Et à chaque fois, c'est comme ça. Elle continue à se sentir co-responsable de mon destin. Mais en parlant avec des amis, je me suis aperçu que ce n'est pas le cas de tous les autres. Beaucoup se disent « Ben voilà, à 20 ans, comme disait Jean Cocteau, à 40 ans, on est responsable de sa gueule. Là, ce serait plutôt à 20 ans, dès lors qu'on part du foyer familial, on assume ses responsabilités. Et cette question, je me posais depuis longtemps, elle m'est revenue en relisant des poèmes de Kipling et en me replongeant dans ce fameux poème que vous avez cité, « If », qui se termine par cette phrase célébrissime « Tu seras un homme, mon fils ». Eh bien, les deux choses se sont télescopées et j'ai décidé de consacrer un livre à Kipling essentiellement à travers sa relation avec son fils. Et ça me permettait de raconter aussi sa vie.
Et qu'est-ce qu'au fond vous admirez chez Rudyard Kipling ?
Alors, c'est une qualité à laquelle vous avez fait plusieurs fois allusion, qui peut paraître naturelle pour un romancier, mais qui n'est pas tant que ça. C'est l'imagination. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il n'a pas vécu dans la jungle. Il ne la connaît pas, la jungle. Ce n'est pas son élément naturel. Alors, il y a un élément que vous n'avez pas évoqué, parce que c'est vrai qu'il a lu. Il a lu des livres. Il a vécu dans cette atmosphère. Donc. Mais c'est les nounous. Il a été bercé pendant son enfance par des nounous qui étaient indiennes et aussi des hommes qui étaient indiens qui s'occupaient de lui. Il y avait une domesticité importante. Et cela lui racontait les histoires, des histoires du pays. Et dans le pays, aux Indes, comme on disait à l'époque, ben, il y avait la jungle, entre autres, les animaux et tout le reste. Donc ça, ça a compté aussi. Une sorte de transmission de tradition orale.
Il place son intrigue dans des paysages qu'il n'a jamais visités en Inde du Nord. Mais en réalité, on a du mal à placer l'histoire. C'est finalement une nature plus universelle dont il nous parle.
Mais justement, il accède au rêve, au graal de tous les romanciers, à savoir être universel et intemporel. Donc ça, c'est sa force, c'est sa puissance. Et en même temps, il ne fait pas exprès. Mais il y a un côté phénoménal chez lui. C'est-à-dire que dès l'âge de 20 ans, il invente. Il a une imagination inouïe et ça n'arrête pas. Alors, on l'a évoqué un peu tout à l'heure comme un piscopi. C'est pas faux. Il débordait d'encre, hein, comme on dit dans les rédactions. Mais avec un piscopi qui avait du génie, quand même. Oui. Parce que c'est pas donné à tout le monde. On peut remplir des pages et des pages. Parfois, c'est pas terrible. Mais lui, très tôt, à 20 ans, 25 ans, il a du succès. Il est traduit. Il est connu partout dans le monde. Et le prix Nobel de littérature vient à point. Évidemment, c'est un peu jeune, mais n'empêche qu'il a vécu de ses droits d'auteur à 25 ans, tout de suite.
Jean-Luc ?
On ne peut pas parler du livre de la jungle sans évidemment parler du Disney. Qu'est-ce qu'il en aurait pensé, Kipling ? Est-ce que son histoire était vraiment éloignée de celle imaginée par le studio ?
Alors, moi, je ne veux pas parler à sa place, mais je vais le faire quand même. je pense qu'il aurait été un peu furieux et d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, les enfants sont persuadés que le livre de la jungle, c'est Walt Disney.
Ah oui.
Ils ne connaissent pas Kipling.
C'est vrai.
Et ça fait quand même un certain nombre d'années hein, que Walt Disney, je dis bien Walt, ce n'est pas le studio Disney, quelque chose de désincarné. Non, Walt Disney, le créateur, qui est très connu aux États-Unis, mais aussi ailleurs, s'est approprié tout ça. Mais malheureusement, c'est une évolution qu'on peut voir aussi avec d'autres grands personnages.
Clémentine, justement.
Il est vrai que sans doute du même coup, l'œuvre de Kipling a tendance à être réduite, ratatinée
réduite,
au livre de la jungle, alors qu'elle est immense. Oui.
Alors que, nous on ne le sait pas en France, hein, parce que c'est surtout en Angleterre et dans le Commonwealth, mais le poète Kipling est un très grand poète, et le nouvelliste est un très grand nouvelliste. Ce n'est pas un grand romancier au sens où on l'entend, mais très souvent, ces nouvelles, on les prend pour des romans. Il y a une nouvelle qui est devenue un grand film. Les gens pensent que c'est un roman. Non, c'est juste une nouvelle. L'homme qui voulait être roi, avec Sean Conway et Michael Caine.
Oui, mais vous diriez que c'est un auteur de la même espèce, de la même ampleur qu'un Dickens. Pour les Anglais, c'est vraiment un auteur immense et que nous, on a tendance à sous-estimer.
C'est un immense auteur. La grande différence avec Dickens, ils sont aussi prolifiques l'un que l'autre. Hein. La grande différence, c'est que Kipling a connu un purgatoire. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, le colonialisme, et je ne parle pas maintenant, parce que maintenant, n'en parlons même pas, mais le colonialisme est banni et combattu. On est en pleine décolonisation et Kipling est associé à ça. Pas seulement parce qu'il était colonialiste, mais il n'y a pas plus réactionnaire que Kipling. Il était antisémite, anti-parlementaire, anti-démocrate, anti-communiste. Mais il s'en fichait complètement. C'était sa position, il n'en demandait pas. Voilà, il y a quelque chose de commun entre lui et Churchill. dans le genre ultra-conservateur. Oui.
Mmh. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas aussi bien que vous l'œuvre de Rudyard Kipling, quelle œuvre vous conseilleriez de lire en premier pour s'immerger dans son univers? Évidemment, il y a le poème peut-être If, parce que si, alors, c'est quand même... C'est l'un des poèmes les plus émouvants qui soit.
C'est un poème magnifique, mais alors, attention, parce que c'est la chose que j'ai découverte en écrivant ce livre, en faisant des recherches, et j'y tiens beaucoup. Ça fait quand même plus d'un siècle que les Français lisent ce poème magnifique, et le connaissent tous, à travers une traduction, celle d'André Monroy, qui est une catastrophe.
Ah oui,
qui est une catastrophe. Et c'est ce que je raconte dans mon livre, parce que mon héros, c'est un prof
Monsieur
de
Lambert,
français.
Oui.
Monsieur Lambert, un prof de français, qui est un fou de Kipling, et qui va le voir en lui disant « Je vous admire, mais on lit votre poème dans une traduction fautive, déjà à l'époque. Hein. »
Oui.
Donc moi, je l'ai repris.
Vous l'avez retraduit ?
Je l'ai retraduit. Enfin, c'est Louis Lambert, mais c'est moi, en fait. Je l'ai retraduit pendant 2 ans. J'ai beaucoup travaillé dessus en allant voir des anglicistes, etc. Pourquoi c'est pas bon, son poème ? Parce que d'une part, c'est plein de contresens. Et d'un poème de sagesse, il fait un poème de force et de violence et de puissance. C'est pas ça du tout, ce poème. Et puis surtout, il fait du Monroy, c'est-à-dire qu'il a enlevé, un quatrain.
Ah bon ?
Il en a mis un autre, mais oui. Donc il a complètement transformé.
Donc il faut le lire en anglais.
Ou l'heure dans la traduction.
C'était de l'incompétence ou c'était à dessein qu'il a fait ça ?
C'est à dessein.
Ah oui ?
Oui, parce qu'il dit se l'approprier. Mais quand on lui a dit, il dit oui, ben je l'ai adapté à ma façon.
Alors c'est un scoop.
Ah hein. Oui, là on vient d'apprendre quelque chose.
Méfiez-vous de cette traduction. Alors moi, la mienne, elle est plus fidèle et partout où je l'ai lu en public... Et les gens étaient d'accord. Parce que surtout ceux
c'est très émouvant, évidemment, parce qu'on connaît le destin du fils de Kipling.
Ça change tout.
Ça rend votre livre encore plus émouvant. Merci beaucoup, Pierre Assouline, d'être venu avec nous sur cet auteur qui a vécu dans la jungle, dans sa tête, et qui l'a rendu célèbre aussi. Il est devenu célèbre grâce à la jungle. Je rappelle l'ouvrage que vous lui consacrez à travers l'histoire romancée d'un professeur de lettres, admirateur de l'écrivain. « Tu seras un homme, mon fils », publié chez Gallimard.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Dans l'intimité de l'histoire.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires qu'Hollywood voudrait produire, Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, justement, on part à Hollywood puisque vous nous racontez l'histoire du célèbre lion de la MGM.
Oui, tout à fait, Stéphane, Jean-Luc, parce que je me suis interrogée sur le fait de savoir si ce lion, qui est quand même une célébrité du cinéma, avait ou non un jour vu la jungle ou pas. Évidemment, vous l'avez bien en tête, ce lion. Ouais. Hein, il est là dans une espèce d'ensemble, dans un cadre doré avec toutes sortes de rinceaux. Ah oui, vous rugissez mieux que vous le faites, Tarzan. Magnifique.
C'est
magnifique,
c'est pas bien qui vient de faire la bouche.
Alors, sachez qu'il y a toutes sortes de légendes autour de l'enregistrement de ce lion. Alors, première légende, le lion était là pour être filmé seulement, puisqu'au tout début du cinéma, il n'y a pas de son. Naturellement, on ne devait pas l'entendre. Et pendant le tournage, le lion avait été remisé quelque part. Deux cambrioleurs, Boris Regina et Karl Malinowski, ont pénétré sur le plateau pendant la nuit. Le lion a commencé à rugir. Évidemment, il ne s'attendait pas à tomber sur cet animal, et il les a blessés, et l'un des deux serait mort de ses blessures à l'hôpital. L'autre a été heurté en pleine évasion par une voiture de police qui arrivait sur les lieux. Bref, tout ça finit de façon un petit peu catastrophique, d'autant que le lendemain, le lion aurait tué son dresseur et ses deux assistants. Voilà, le tout dans un tournage qui aurait été supervisé par Hitchcock. Bon, alors tout ça est complètement faux,
bien sûr.
Naturellement. Mais ça, ce sont des anecdotes qui ont circulé, les légendes urbaines sur Léo, le lion de la MGM. Alors, la première vérité, figurez-vous, c'est qu'il n'y a pas du tout un seul lion, mais en fait, il y a Léo, il y a les Léo, puisqu'il y a eu 7 lions de la MGM. Nous, on a l'impression...
C'est le même qu'on voit partout.
On a l'impression que c'est toujours le même, pas du tout. Il y en a donc eu 7. Et le premier, c'était Slats, un lion qui n'avait jamais vu la jungle, lui, parce qu'il était né à Dublin. Ah, vous parlez d'une jungle. Alors, mais il a quand même été le premier à dodeliner de la tête, de la crinière, mais fort silencieusement, parce que donc pas de son à l'époque. Donc, Slats, premier lion, de 1917 à 1928. Hein. Slats a été entraîné à cet exercice par Volnep Fieher, qui était un dompteur que les studios sollicitaient dès qu'on avait besoin d'un fauve à l'écran. Et il a fait enterrer Slats, né à Dublin.
Mais sur rassurez-moi sur un point, le il date de quand le
Alors celui-là, le c'est le lion suivant. Hein. Ah. Jackie, lui, il est né en 1915, c'est le second lion de la MGM et le premier fauve dont on ait pu. Jackie, bah oui,
Jackie le lion, c'est moins impressionnant.
Viens,
Jackie,
Coco, allez, viens rugir devant le micro.
Et donc, une fois, il l'a fait qu'une fois, ça.
Et oui, c'est 1928.
Voilà.
Et les techniciens étaient assez courageux parce que tout de même, le lion était monté sur des plots, vous voyez, des plots de cirque. Et il est à un mètre des techniciens qui le filment et qui captent le son. Fallait quand même en avoir envie. Et vous vous rendez compte que Jackie, hein, ça a été quand même une sacrée vedette d'Hollywood parce qu'il a tourné dans une centaine de films. Hein. Donc, il n'a peut-être pas vu la vraie jungle non plus, mais il a vu la jungle en carton-pâte. Mais il a tourné Jackie dans une centaine de films, dont évidemment pas mal de Tarzan. Ensuite, il y a deux autres lions, Telly et Coffey, qui ont été employés lors des expériences de coloration Technicolor, parce que le logo, il y avait eu un moment, il fallait le refaire en couleur, en 27 et en 34. Bon. Et puis après, il y a eu un certain Tanner. Et Tanner a tenu l'affiche de 34 à 56.
Ah oui, quand même.
Mais le pauvre Tanner, c'était un lion un peu maussade, pour ne pas dire dépressif. Ça
il a fait Clarence,
il était trop vieux, Stéphane.
Ah oui.
Là,
et qui a fait Daktari?
MGM. Alors le lion de Daktari, je ne sais pas.
Ah, parce que ça,
je me renseignerai.
Mais il louchait, oui.
Oui, c'est ça.
Oui, je sens que cette info vous intéresse, je chercherai. En tout cas, Tanner, lui, il a tenu quand même 22 ans. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui tiennent l'affiche 22 ans comme ça. Alors pourquoi est-il finalement remplacé par George en 1956. Pourquoi Georges n'a-t-il travaillé que deux ans? Mystère, mystère insondable des lions de la MGM. Enfin, le fameux, le dernier, le septième, c'est Léo, vedette du logo depuis 1957 jusqu'à nos jours. Donc celui que nous connaissons, nous, de façon plus récente, c'est Léo. Et il y a des versions où il rugit deux fois, des versions où il rugit trois fois. Et alors, on ne rit pas parce que pour les passionnés, c'est extrêmement important et ça fait toute la différence. Bon, il n'y a jamais eu d'attaque de lion, sauf en 2010 au MGM Casino de Las Vegas et l'entraîneur a survécu à l'attaque. Tout va bien, rassurez-vous. Alors, en fait, je me suis quand même renseignée au passage pour aller voir où étaient tournés les Tarzans de l'entre-deux-guerres avec Johnny Westmuller. Parce que je me demandais si Johnny, lui aussi, avait vu ou pas la jungle, figurez-vous. Or, le premier Tarzan, l'homme singe avec Johnny Westmuller a été tourné à Lake Sherwood en Californie, donc pas du tout dans la jungle et pas de jungle non plus pour le lion vedette. Mais en revanche, Stéphane, pour vous qui faites si bien le cri de Tarzan, j'ai trouvé une information extrêmement réjouissante, peut-être aussi réjouissante que la malheureuse, hélas, dame là qui a été blessée par une météorite et qui est morte de calcul rénaux. Eh bien, écoutez, le cri de Tarzan, Stéphane, écoutez ça.
Après, bon, c'est à vous, Stéphane. Hein.
Il proviendrait en réalité de l'enregistrement audio d'un yodel autrichien monté à l'envers et en accéléré.
Exactement.
Sérieux?
Oui.
Le yodel autrichien monté à l'envers. Non, mais...
oui, un yodel monté à l'envers. Merci, merci beaucoup, Clémentine. C'était passionnant. À suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc Lemoyne qui prend la main. C'est le quiz Born to be Alive.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Chaque après-midi, il y a des moments de grâce dans Historiquement vôtre, des moments d'intelligence, des moments de subtilité, d'autres de raffinement. Et puis, il y a le quiz aussi, avec vous, Jean-Luc Lemoyne, et avec Clémentine et moi. Voilà, c'est The Battle.
Je n'ai pas du tout aimé cette présentation, Stéphane. Je suis très vexé.
Je sens que je vais avoir des points en moins.
Oui, déjà. Vous partez avec moins 2.
Ah non.
Écoutez.
Non, mais on ne peut gagner que 2 points.
Bah justement, vous savez que votre avenir est tout tracé.
Non, parce que là, vous m'encouragez à ne même plus travailler.
Non, mais ça sera beau, ça sera l'art pour l'art.
Oui, exactement.
L'histoire pour l'histoire.
Ouais. Et ce que je propose, parce qu'elle m'a quand même bien chauffé, Clémentine, avec son cri de Tarzan, le perdant devra faire un cri de Tarzan. Ça vous va?
Ok.
Préparez-vous. Une première question pour Stéphane. On va débuter ce quiz en bonne compagnie. J'ai choisi Pline l'Ancien, écrivain, naturaliste. Il est né, vous le savez, en 23 après Jésus-Christ. Encyclopédiste, il a écrit sur beaucoup de sujets, notamment sur les possibilités de grossesse ou non, selon les relations sexuelles entre les humains et différents animaux. Vrai ou faux ?
Est-ce que en 23 après Jésus-Christ, on pensait encore qu'on pouvait éventuellement avoir des relations sexuelles avec son âne ou son chien ?
Avoir, oui, mais la question c'est est-ce que ça peut donner naissance à une créature ?
C'est ça.
Est-ce que Pline, qui était quand même un très grand scientifique, a pu penser raisonnablement que un homme se croisant avec un âne ou un singe, un cheval, pouvait donner naissance à une créature ?
C'est-à-dire... Moi, je ne l'aurais pas fait, vous voyez.
Vous voulez dire le livre ou,
oui.
ou l'acte ?
Non, ni l'un ni l'autre. Mais Pline l'Ancien, un homme respectable, pourtant.
Oui, c'est un naturaliste.
C'est pas bien qu'il ait fait ça, c'est pas bien.
Alors, quelle est votre réponse ?
Écoutez, moralement, je m'interdis de penser une chose pareille, donc je dirais non, il a pas pu faire une chose aussi horrible et méprisable.
Vous répondez faux, on vérifie.
Vous savez... Gagné.
Vous avez gagné, vous êtes rassuré, j'imagine.
Oui, j'ai eu peur. Là.
Par contre, il a écrit sur les foudroiements humains. Que se passe-t-il quand une personne est touchée par la foudre ? On en a parlé il n'y a pas longtemps. Ce qui, j'avoue, n'a aucun rapport avec les relations sexuelles entre humains et non-humains.
Si, coup de foudre.
Oui. Vous êtes si romantique. Ça y est, finalement, on y vient. Une question pour Clémentine maintenant. 1995, Disney sort Pocahontas et c'est super chouette. Hein ? Mais la vraie histoire de la vraie Pocahontas est un peu différente. Elle est née en 1595. Son père était le chef indien d'une trentaine de tribus. Son vrai nom était Matoaka, son surnom Pocahontas. Mais ça veut dire quoi, Pocahontas ? Plusieurs propositions. Petite impudique, fleur insolente, fière jument... ou Clémentine intrépide ?
Moi, je dirais fière jument.
Fière jument. Vous avez l'air bien sûr de vous.
Non, pas du tout. D'autant, est-ce que les Indiens avaient des en Amérique du Nord avaient des chevaux comme ça ? Redites-moi les deux premiers.
Petite impudique ou fleur insolente ?
Fleur insolente.
Fleur insolente. Vous étiez parti sur fière jument, je le rappelle. Finalement, vous allez sur fleur insolente. On vérifie.
Vous savez... Perdu.
Bon, aucun regret, hein, c'était petite impudique.
Ah, petite impudique ?
Exactement.
Oh, c'est curieux, ça, d'appeler sa fille comme ça, enfin.
Ah, vous voulez pas vous entraîner pour le... Le cri de Tarzan.
Chauffez votre voix, quand même, on sait jamais.
J'avais oublié ça.
Elle était surnommée ainsi pour son espièglerie. Pocahontas a été enlevée par les Anglais, forcée de s'habiller comme une Européenne, d'apprendre la langue, de se marier avec un Anglais, de lui faire un enfant, de se convertir au christianisme. Elle va mourir à 22 ans, très certainement d'une dysenterie épidémique. Et, alors, va faire un dessin animé après, ça fait moins rêver que Disney. Hein. Pocahontas, c'est la fin, et la chanson sur la dysenterie, ça serait formidable. Question numéro 3 pour Stéphane. Un jour, oui j'aime bien la précision historique, un jour donc, le médecin de Louis XIII remarque dans la ville de Montesson, Pierrette Dufour qui allait de son fils. Elle va devenir la nourrice de Louis XIV. Ce dernier est né avec deux dents. Il avait la réputation de mordre les seins qu'on lui présentait pour un allaitement. Pierrette Dufour protégeait le sien avec de la couenne de lard. Vrai ou faux ? Ce qui faisait du lait un peu smoky.
À la tête de Stéphane ! Il essaie de visualiser la scène. Alors, voyons, comment est-ce qu'on se met ? Imaginez une tranche de bacon que vous utilisez le matin pour faire vos œufs au plat.
En même temps.
Enrubanné autour du téton.
Voilà.
Mais enfin, avec ses deux dents, il devait embarquer le bout de lard, Louis XIV.
Ça donnait un petit côté fumé à tout ça.
Et puis, si vous avez un morceau de lard au bout du sein, comme ça, le bébé a une bouche trop petite. Non, elle devait graisser son mamelon, son téton avec du sein doux, peut-être, pour éviter les crevasses.
Elle se plaignait toute des tétés de Louis XIV, mais est-ce qu'elle avait... Je crois pas, écoutez, je crois pas qu'elle ait mis du lard autour du téton.
Elle a pas mis du lard ?
Non.
Vous avez perdu.
Elle a mis du lard.
Mis du lard, la couenne de lard. C'était une astuce campagnarde. Il y a eu une vraie affection entre Pierrette Dufour et Louis XIV. Elle est devenue ensuite femme de chambre d'Anne d'Autriche. Une question pour vous. Alexandre le Grand était surnommé Dikoros. Pour une raison toute simple, il se teignait les cheveux. Vrai ou faux ?
Oui, il se soit teint les cheveux. Enfin, il était roux, je crois, Alexandre le Grand. On dit qu'il était roux. Mais Dikoros, non, moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Je pense qu'il était roux, mais c'est le terme Dikoros qui me surprend. Je réponds non.
Vous répondez non, on vérifie.
Vous avez gagné.
Ouf. Bravo.
On ne sait toujours pas qui va faire Tarzan. Non, Dikoros signifie deux couleurs en grec ancien. Il n'est pas question de ses cheveux, mais de ses yeux. Les sources divergent. Pour certains,
il avait les yeux verrons, peut-être.
Bah, pour certains, oui. Il avait un œil brun et l'autre bleu. Pour d'autres, un œil noir et l'autre bleu-vert. Est-ce que vous avez un avis, Stéphane ?
Bah, y a comment elle s'appelait ? Liz Taylor avait ça.
Bowie.
Et David Bowie aussi. Absolument.
Les yeux verrons. Exactement. En tout cas, c'est le moment qu'on attend tous. On va savoir dans un instant qui va faire le cri de Tarzan.
Il vaudrait mieux que ce soit Stéphane. Je pense que c'est beaucoup plus drôle que si je le fais moi.
Je ne sais pas. Je pense que vous avez un bel organe aussi. Et c'est la question qui va vous départager maintenant. Je vous présente John George Hay, anglais, né en 1909. Je crois que Christophe Fondat avait son numéro de portable à une époque car il était surnommé le tueur au bain d'acide. En effet, il y avait une façon efficace de faire disparaître les preuves. C'est un personnage assez taquin, hein, puisqu'il appréciait aussi de boire le sang de certaines de ses victimes en plantant une paille directement dans leur veine jugulaire. Il a été condamné en 1949 à mort pour l'assassinat de 6 personnes alors qu'il en avait reconnu 9. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Et il a eu un autre comportement étonnant. Mais qu'a-t-il fait donc ce John George Hay ? Il a adopté le chien d'un couple qu'il avait tué. Il a collé les poils de barbe d'une de ses victimes sur son crâne car il est complexé de sa calvitie. Il a subtilisé tous les tire-bouchons de toutes les personnes qu'il a tuées.
1.
2.
Vous avez dit le chien et vous avez dit les poils de la barbe pour se faire un toupet. On est d'accord. Écoutez, j'ai envie d'en féliciter un et je conseillerai à l'autre de commencer à chauffer sa voix. Préparez-vous Clémentine, puisqu'il a gardé le chien d'un couple qu'il avait éliminé.
Oh là là, écoutez, franchement, c'est décevant comme réponse. Hein.
Il a été élevé dans une secte protestante conservatrice. Et John George a été pendu à Londres en 1949.
Oh, non. Allez, mesdames et messieurs,
est-ce qu'il faut que je me frappe sur la poitrine pour donner plus de...
Je sais que comme toutes les grandes voix, vous avez besoin qu'on vous donne le « là ». Alors, on réécoute une fois. On réécoute une fois.
Oh non, je ne peux pas tenir le coup aussi longtemps.
Eh ben je dis bravo. C'est mieux que le yodel inversé.
Oh là là.
Bravo Clémentine.
Montez-moi
et bravo Stéphane.
Ça à l'envers.
Merci Clémentine, à demain.
Vous serez le plus grand roi du monde.
J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Madame, vous avez entendu parler de la fusée lunaire. Est-ce que vous y croyez ?
L'art est un monde qui n'a rien à voir avec la réalité.
L'hyperphosphorescence, c'est de la physique.
Stéphane Bern.
Et je ne suis évidemment pas seul dans cette émission. Ils sont trois, ils sont avec moi. Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et notre guide culinaire vivant, et bon vivant même, qui est avec nous aujourd'hui, Olivier Pouls.
Et
ceux qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un point commun, et c'est bien pour cela qu'on les réunit cet après-midi, nos trois personnages du jour qui ont vécu dans la jungle. Après l'écrivain du livre de la jungle, Rudyard Kipling, je vous raconte Hiro Onoda, un soldat japonais resté près de 30 ans dans la jungle de Lumang, une petite île des Philippines, pensant que la Seconde Guerre mondiale n'était toujours pas terminée, alors que son pays entier le pensait mort depuis bien longtemps, vous verrez. Quant à vous, Jean-Luc Lemoine, vous allez nous raconter à votre manière, comme chaque jour d'ailleurs, le vivant de l'étape. Une vivante même, qui a passé du temps dans la jungle aussi, mais elle, bon, elle ne l'avait pas choisi.
Oui, je reviens sur la prise d'otage d'Ingrid Betancourt par les FARC, ou ses 6 années passées dans la jungle amazonienne, et je peux déjà vous dire que c'était pas très sympa là-bas. Les FARC sur Airbnb, ils sont très très mal notés.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Vous nous raconterez tout ça, ce sera juste avant 17h30. Et dans la dernière partie de l'émission, vous retrouverez, chers auditeurs, ces deux êtres qui, eux, sont plutôt sympas. Olivier Pouls, dans « Mes aïeux, quelle époque ?», vous nous ramenez aujourd'hui à l'époque de l'homme de Cro-Magnon pour découvrir l'invention de la cuisine.
Ouais,
rien de moins.
Tout simplement, rien de moins. Bah, avant lui, on ne cuisinait pas et après lui, on s'est mis à transformer les aliments. Et vous allez voir qu'il avait plus d'un tour dans son sac, ce sacré homme de Cro-Magnon. Il a inventé des techniques qu'on utilise encore aujourd'hui, ah oui. Figurez-vous.
Donc il avait un sac aussi.
Peut-être.
Et David Cassel-Lopez, vous nous racontez les origines de la flûte à bec.
Exactement, la flûte à bec dont on a tous joué, je pense, quand on était au collège et qui ne nous a pas forcément laissé des excellents
souvenirs. Il y aura un concert ?
Peut-être.
Fais-nous rêver.
Rendez-vous donc en fin d'émission, mais pour l'heure, je vous raconte notre deuxième personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
La jungle, lui, y a vraiment vécu. Pas qu'un peu d'ailleurs. Presque 30 ans. Il n'y est pas né, il n'y était pas par goût de l'aventure, il n'était pas non plus prisonnier. Alors quoi ? Que faisait-il là-bas ? Je vous raconte l'histoire à peine croyable du soldat japonais qui a vécu dans la jungle durant la guerre et qui est resté. Hiro Onoda. Nous sommes sur la petite île de Lubang, dans la mer de Sulu, aux Philippines. En ce mois de mars, il commence à faire chaud sur ce petit bout de territoire situé à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Manille. Il est un peu plus de 2 heures de l'après-midi et quelque part en plein cœur de cette jungle insulaire, sous une canopée qui laisse à peine filtrer les rayons du soleil, quelque chose trouble la mélodie habituelle de la forêt tropicale. Des feuilles remuent, des branches craquent. Quelque chose est tapi derrière un buisson. C'est un homme, la cinquantaine environ. Pas un habitant de l'île, non. C'est un militaire, semble-t-il. Il porte un uniforme. Ah, peut-être un uniforme impérial japonais. Difficile à dire, il a manifestement été rapiécé. En tout cas, il a l'air dangereux. Un fusil est pendu à son épaule. Prudemment, l'homme s'extirpe de sa cachette et regarde d'un air inquiet autour de lui. Il est l'heure. S'il veut être au point de rendez-vous avant le crépuscule, il lui faut partir maintenant, quitte à prendre quelques risques en chemin. Le lieu n'est qu'à 2 heures de marche, de l'autre côté de la rivière, mais il veut avoir le temps de surveiller les lieux avant. Précaution d'usage dans ses rangs. Il lui faut aussi prévoir un peu de temps pour se camoufler avec des feuilles et des branchages quand il sera découvert. Vers 4 heures de l'après-midi, Hiro Onoda, c'est son nom, n'est plus très loin du lieu prévu pour la rencontre. La tension monte. Et si c'était un piège de l'ennemi ? Depuis la colline où il se poste, caché au milieu des arbres et des buissons, il observe attentivement le fameux lieu mentionné par un certain Suzuki dans sa lettre. Outre une tente jaune, l'endroit semble désert. Un drapeau japonais flotte au-dessus, mais pas âme qui vive. Suzuki a-t-il dit vrai ? Le major Taniguchi a-t-il véritablement fait le déplacement ? Profitant de la lumière déclinante du jour, Hiro Onoda descend de la colline et s'approche. Il ne peut plus reculer, alors il saisit son fusil, bombe le torse et avance. Soudain, quelqu'un crie « C'est Onoda ! Major Taniguchi, c'est Onoda !» À travers l'embrasure de la tente, une tête surgit. C'est le major, c'est bien lui. Hiro Onoda n'en revient pas. Se figeant dans un garde-à-vous impeccable, il s'écrie « Lieutenant Onoda, major, à vos ordres !» L'homme lui tapote amicalement l'épaule, il fait une pause. Ce qu'il a à lui dire demande du sérieux. On croirait une plaisanterie, mais ça n'en est pas une. « Je dois vous lire vos ordres, » lui dit-il le plus solennellement possible. « Ordre de l'escadron spécial, 19 septembre, 19h. Les unités des soldats doivent immédiatement cesser tout acte de guerre et toute opération. » Un instant, Hiro Onoda reste interdit. Ils ont perdu la guerre. Son sac à dos lui semble soudain peser une tonne. C'était bien vrai alors. Un instant, il vacille. Est-ce seulement possible ? Est-il à ce point ridicule ? Et lui qui s'était tant méfié en chemin aujourd'hui ? À quoi a-t-il passé son temps toutes ces années ? Oui, toutes ces années. L'ordre que vient de lui lire son supérieur, il le devine, ne date pas d'hier. Il date de septembre 1945. La tête lui tourne. Hiro Onoda a beau avoir vécu dans la jungle toutes ces années, il connaît la date. On est le 9 mars 1974. Voilà presque 30 ans qu'Hiro Onoda mène une guérilla dans cette jungle, loin de chez lui, persuadé que la guerre fait encore rage. Voilà presque 15 ans que le gouvernement japonais a déclaré Onoda mort. Les idées se bousculent dans sa tête. Mais alors ? Ces indices trouvés au fil des années n'étaient pas des ruses de l'ennemi ? Mais alors pourquoi sont morts ses camarades ? Pour rien ? Tout ça pour rien ? Les larmes lui viennent aux yeux. Comment l'expliquer ? Onoda doit trouver les mots pour se justifier auprès du major. Il doit parler et tout raconter. Alors il commence par le début, même si le major Taniguchi le connaît. Son arrivée sur l'île en décembre 1944 à l'âge de 22 ans avec une mission, celle de mener une guérilla sur l'île pour retarder à tout prix le débarquement des Américains et tenir jusqu'à l'arrivée des renforts et surtout, ne jamais se rendre. Un ordre est un ordre. Lui et ses camarades le suivent à la lettre. Puis quand les Américains débarquent finalement sur l'île, que leurs rangs sont décimés, lui et trois de ses camarades, Akatsu, Shimada et Kozuka, se cachent dans les montagnes. Quelques mois passent. C'est vrai qu'il trouve bien quelques tracts annonçant la fin de la guerre, la capitulation du Japon, mais il n'y croit pas. De la propagande Yankee, voilà ce que c'est. Comment pourrait-il en être autrement? L'empereur Hirohito ne peut être vaincu. Chaque avion aperçu, chaque coup de feu entendu en est une preuve supplémentaire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en réalité, les forces armées philippines ont fait de Lubang un terrain d'entraînement. Puis les années passent dans cet enfer vert. Le quotidien des quatre guerriers roses japonais est rythmé par la faim, la chaleur, l'humidité, les insectes et les serpents. N'y tenant plus, l'un d'entre eux, Akatsu, décide de rentrer au Japon en 1950. Son retour, évidemment, le récit qu'il raconte, déclenche des missions de sauvetage. Mais rien n'y fait. Les trois irréductibles ne veulent pas croire ce qu'on leur dit. Ces gens sont des traîtres, ils en sont persuadés. Il faut continuer le combat. C'est ce qu'ils font en s'attaquant aux forces armées locales qu'ils croient à la solde des Américains. C'est ainsi que Shimada est tué en 1954. Puis également Kozuka, son ultime frère d'armes, en 1972. Onoda se retrouve alors seul. Seul, certes, mais pas oublié. Onoda le découvrira 2 ans plus tard au Japon. Son nom est devenu légendaire, presque un mythe. Et quand Onoda rentre au pays, son retour fait l'effet d'une bombe médiatique. Et contre toute attente, il est reçu en héros. En héros, malgré son absurdité, malgré surtout les dizaines de Philippins morts par sa faute ou celles de ses camarades durant les années de guerre imaginaire. Quel choc il a dû ressentir en rentrant, en découvrant le Japon des années 70, ses relations privilégiées avec Washington. Peut-être en est-ce la raison, peut-être pas. Toujours est-il qu'il s'exile au Brésil plusieurs années, puis finit par rentrer au milieu des années 80. Lorsqu'il meurt en 2014, Hiro Onoda est une véritable célébrité dans son pays. Pourquoi lui d'ailleurs et pas un autre? Car il est loin d'être un cas isolé. Plus d'une centaine de soldats japonais seront retrouvés errants aux quatre coins de l'Asie du Sud-Est au fil des années.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Hiro Onoda, nous avons le plaisir d'accueillir celui qui a raconté son histoire dans un film. Bonjour Arthur Harari.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter l'incroyable histoire de Hiro Onoda au cinéma? Vous étiez adepte de ces histoires de Robinson Crusoe, perdu sur une île?
Oh bah, j'étais un amateur de romans d'aventure et de films d'aventure depuis que je suis gamin et de bande dessinée. Enfin voilà, j'ai toujours carburé à la lecture de ce genre de récits, entre autres, pas uniquement, mais... j'avais envie de faire un film d'aventure. Donc je cherchais un peu tous azimuts. Et puis c'est mon père, un soir, qui savait que je cherchais dans cette direction-là, une discussion comme une autre, je lui dis que je trouve pas, il me dit bah, sinon tu as qu'à raconter l'histoire de ce soldat japonais qui est resté des années sur une île. Et il l'a vraiment dit comme une blague, parce qu'il pensait pas que j'allais ça semblait hors de d'atteinte, quoi. Et donc j'ai dit mais c'est quoi cette histoire? J'ai été regarder sur Wikipédia, d'ailleurs depuis je donne 10 euros par mois à Wikipédia parce que je considère que c'est une institution géniale. J'ai trouvé un livre qui m'a passionné, qui m'a fasciné, et en fait ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que non seulement l'histoire en une phrase, elle est incroyable. Enfin, je pense que c'est impossible de pas la trouver incroyable. Oui. Mais que quand on la détaille, quand on rentre dans quasiment le quotidien, enfin, il y a une matière dramatique absolument incroyable. J'ai même dû faire des choix. Il y a des choses que j'ai pas mises qui étaient formidables parce que, bon, déjà, mon film est long. Il fait 2h45, mais je veux dire, c'est très riche, quoi. Donc, ça m'a vraiment attiré comme une évidence, quoi.
Pour votre film, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, vous avez obtenu en février dernier le César du meilleur scénario original. Et ce scénario, justement, il a fallu le traduire en japonais, puisque c'est la langue dans laquelle le film a été tourné. Alors, j'imagine que tourner un film dans une langue étrangère, ça ajoute quelques difficultés. Comment vous avez dirigé vos acteurs?
Bah, j'avais un traducteur en permanence, un interprète avec moi, et qui était déjà dans un premier temps le traducteur du scénario, et qui est devenu un ami vraiment proche. La traduction du scénario a été en soi une aventure un peu épique, qui s'est étalée quasiment sur 6 mois. C'est-à-dire, il a fait une première traduction, puis je me suis rendu compte que je ne pouvais pas la vérifier. Pour moi, c'était des hiéroglyphes, évidemment. Et comme je suis un peu obsessionnel, je voulais savoir exactement ce que chaque dialogue... Enfin, je voulais être sûr que ce soit exactement ce que j'avais mis intentionnellement, moi, d'abord en français. Et donc on a fait un travail inverse, donc ça semble un peu absurde, mais je lui ai demandé de me retraduire à partir de sa traduction en japonais, tous les dialogues en français. Et moi, je suivais sur ma version française et j'ai pu constater l'écart qu'il y avait. Parce qu'en fait, ce sont deux langues tellement différentes et deux cultures tellement éloignées que, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire telles quelles. C'est loin d'être une évidence.
Et après, vous l'avez fait retraduire dans l'autre sens.
Bah, c'est-à-dire que le travail qu'on a fait avec lui, il a compris des D'accord. intentions qu'il n'avait pas compris. On a affiné. Comme je dis, je suis assez obsessionnel, donc ça a pris beaucoup de temps. Et au sortir de cette traduction-là, enfin de cette période-là, je savais vraiment très précisément ce que chaque dialogue japonais...
Bah justement, vous connaissez des mots japonais maintenant ?
Je connais quelques mots et des structures de phrases, je ne parle pas le japonais. Mais...
L'une des questions posées par votre film, c'est de savoir à quel point on peut construire des mondes imaginaires dans nos têtes. Onoda est allé très loin dans le déni, puisqu'il a refusé de croire que la guerre était finie, malgré toutes les preuves qu'on lui apportait. C'est ça qui est fascinant aussi.
Oui, je crois que c'est vraiment moi ça qui m'a donné envie de faire ce film, parce qu'au-delà de l'anecdote historique qui est incroyable, il y a quelque chose pour moi de l'ordre d'une métaphore sur la croyance et sur la fiction, sur l'imaginaire. Enfin, c'est quelqu'un qui a effectivement essayé de faire tenir son récit, un récit qu'on lui avait raconté, c'est-à-dire le Japon ne peut pas perdre la guerre, contre toute vraisemblance et contre la réalité qui venait en permanence lui apporter des démentis. Selon moi, il y a quelque chose de l'ordre... Alors je sais que vous avez parlé de Kipling aussi. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la croyance dans la fiction qui veut faire plier le réel, réalité, oui. La réalité. Mmh. Et j'ai trouvé qu'au-delà de la folie de cette histoire, pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement fort et d'émouvant qui m'a ramené à ma position d'enfant à qui on racontait des histoires et ce qui a fait que j'ai voulu moi-même en raconter.
Mmh. Jean-Luc ?
Bah, Onoda a passé 10 000 nuits dans la jungle dans un dénuement total. Est-ce que vous, pour préparer le film, vous n'avez pas eu envie de tenter l'expérience pendant le tournage au Cambodge ? Parce que les stages de survie, c'est à la mode en ce moment.
Alors moi, je suis plutôt assez chochotte. C'est-à-dire que la première fois que je suis arrivé au Cambodge et que j'ai passé une nuit dans un bungalow pourtant très bien fait, mais il y avait juste des petits interstices où on voyait des fourmis monter, j'ai eu peur. Et je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué ? J'y arriverai pas, je vais me faire piquer, il y a les araignées, ça va pas le faire. Donc en fait, le film et la préparation, enfin tout, c'était une aventure en soi. D'ailleurs, les acteurs japonais, quand ils ont commencé à travailler, avant le tournage, ils ont dit, est-ce qu'on pourra dormir dans les conditions des personnages, vraiment? Enfin, ils étaient dans un engagement ahurissant. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça de la part d'acteurs, notamment français. Mais, et on les a un peu calmés. On leur a dit, mais vous savez, il n'y a pas forcément besoin. Puis vous allez être 3 mois sur place, on va être fatigué. Ils l'ont finalement pas fait, mais ils avaient eux envie de se mettre dans cette position-là. Et bon, au Cambodge, il y a de la jungle. C'est pas, faut pas imaginer Apocalypse Now. Il y avait des choses difficiles et éreintantes, mais on était dans des bonnes conditions de tournage.
Mmh. Olivier, chacun évidemment ramène tout à sa propre. Ouais.
J'ai une question, Arthur. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu manger pendant 30 ans, ce type, dans la jungle ? On a dû le ramasser dans un état de carence abominable.
Alors non, il était dans un très bon état physique. Il avait quelques carences, mais en fait, il était dans une très bonne forme physique. En fait, sur cette île,
il y a à manger là-bas, quoi.
En fait, c'était pas une île déserte, c'était une île habitée. Il y avait énormément de noix de coco et de bananes, et en fait, il se trouve que ça constitue une très bonne base alimentaire en termes, voilà, de protéines et de vitamines. Et en fait, il y avait des rizières, donc il volait régulièrement du riz aux paysans, donc il le faisait cuire. Et quand il avait besoin de viande, pareil, il faisait une razzia, il descendait dans les champs, il tuait un bœuf. Et il découpait la viande, il la séchait, il la stockait. En fait, ça le faisait tenir des semaines, voire des mois. Mmh. Et en fait, il s'en sortait plutôt bien. Il n'a pas eu de problème d'alimentation. Mmh.
Mais on sait comment il est. Si c'était fait un petit abri, si c'était fait.
Oh oui, c'est très documenté. Lui-même a écrit un livre. Il y a eu des. En fait, il avait un circuit pendant un an. En fait, il faisait le tour de l'île parce qu'évidemment, il y avait la saison sèche et la saison des pluies. Mmh. Donc, et quand il arrivait au moment de la saison des pluies dans une certaine partie de l'île, qui au bout d'un moment est devenue toujours la même, il se construisait avec ses camarades des huttes. Au bout d'un moment, pareil, les huttes étaient extrêmement précisément construites. Ils savaient toujours comment faire. Ça leur prenait à peu près 3-4 jours pour construire la hutte. Et ils passaient la saison des pluies dans cette hutte. Puis il a enterré des choses à plusieurs endroits de l'île. Il avait une espèce de carte dans sa tête où il savait où étaient notamment des munitions, parce qu'il avait récupéré à peu près 300 balles de fusil. Enfin bon. Et tout ça était dans des bocaux scellés dans la terre. Bon, pareil pour un certain nombre de vivres. Moi, une chose qui m'avait fasciné notamment, c'est que pendant 30 ans, il n'a pas eu recours à l'argent. Donc, il était hors capitalisme. Il était vraiment dans une forme involontaire d'utopie.
Mais 30 ans dans la jungle, loin de tout, loin des bouleversements du monde, de l'histoire, honnêtement, c'est une éternité. On se pose forcément la question de la réadaptation. Vous êtes intéressé à la réadaptation de Hiro Onoda. Il est mort en 2014, soit 40 ans après être sorti de la jungle. Ça, ça peut faire l'objet d'un second film, ça.
Absolument, oui. D'ailleurs, il est mort quand j'avais déjà décidé de faire ce film. Moi, j'ai découvert Onoda et j'ai décidé d'en faire un film en 2013. Mais oui, la réadaptation, c'est assez fascinant. Moi, j'ai assez vite compris que mon film, j'allais le terminer au moment où l'hélicoptère décolle et l'emmène de l'île. Parce qu'en soi, pour moi, c'était... c'est comme si le film racontait un rêve, une possibilité de l'histoire. Et le décollage, pour moi, c'est le moment où il dit adieu à ce rêve. Enfin, je trouvais qu'il y avait là une unité qui me suffisait. Mais sa réadaptation a été assez fascinante. Il a assez vite compris que les médias lui demandaient d'être un personnage médiatique. Parce qu'en fait, le Japon a payé, ça c'est officieux, mais le Japon a payé le président dictateur Marcos Philippin pour récupérer Onoda, sans quoi il aurait vraisemblablement été assassiné ou il aurait fini sa vie dans une geôle philippine, parce qu'il a quand même assassiné un certain nombre de civils et de militaires sur cette île pendant 30 ans. Et en fait, le gouvernement japonais tenait absolument à le récupérer, parce que c'était vraiment le symbole est extraordinaire. C'est le soldat victorieux d'une guerre qui a été perdue et qui a traumatisé le Japon. Donc c'est très dur à imaginer à quel point c'est.
Et avant votre film, il y a eu des films sur lui au Japon, parce que justement, c'est un héros national.
Il y a eu un téléfilm de la télévision nationale NHK au Japon, mais plus le temps a avancé, plus c'est compliqué pour les Japonais, je pense, d'en faire un film. Parce qu'il incarne quand même la continuité avec l'Empire, une forme aussi de colonialisme. Il était raciste, parce que pour lui, les Philippins étaient des sous-hommes. Enfin, c'est quand même assez compliqué de juste en faire une figure héroïque. Pour moi, c'est un héros extrêmement ambigu, en partie très sombre, en partie ridicule, absurde. Il y a quelque chose... On ne peut pas en faire une figure simple. D'ailleurs, la plupart des films historiques faits par les Japonais aujourd'hui, ou enfin depuis quelques années, en général, se concentrent sur des figures très simples, c'est-à-dire... des justes, quoi, des ceux qui avaient compris qu'en fait ils ne pouvaient pas gagner la guerre et que le militarisme était une folie. Enfin, il n'y a pas tant de films que ça qui regardent vraiment les yeux dans les yeux ce que ça a été que la folie militariste japonaise, qui est vraiment quelque chose qui a été très très loin.
Merci beaucoup, Arthur Harari.
Merci
à vous. Votre film Onoda 10 000 nuits dans la jungle est disponible en DVD et en streaming sur la plateforme MyCanal. Je précise par ailleurs qu'une projection aura lieu au Forum des Images de Paris le 15 octobre prochain à 20h.
Absolument. Merci à vous pour cette invitation.
Merci à vous d'être venu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez et Olivier Pouls, on réunit trois personnages qui ont vécu dans la jungle. Après Rudyard Kipling et Hiro Onoda, vous nous racontez, Jean-Luc, celle qui a été otage dans la jungle amazonienne, Ingrid Betancourt.
Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de celle qu'on rêve tous de voir un jour dans le prochain Koh-Lanta. Parce qu'on sait tous qu'elle arriverait à plier le game en trois coups de cuillère à peau. Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt, à ne pas confondre avec Liliane Betancourt, l'ancienne PDG de L'Oréal. Non, Ingrid Betancourt a passé 6 ans et demi dans la jungle colombienne. Imaginez le calvaire. Mais bon, revenons au commencement. Ingrid Betancourt est née le 25 décembre 1961 à Bogota, en Colombie. Papa est diplomate. Maman sénatrice. C'était un néologisme je trouvais ça joli. Non, elle était beaucoup plus joyeuse que ça. Et papy était propriétaire terrien. Aucun doute possible, Ingrid est née du bon côté. Le côté... Oui, le côté de la moula, du flouze, du fric, du côté où on n'attend pas les soldes pour finalement s'acheter des fringues d'hiver en été. Après quelques allers-retours entre la Colombie et la France, Ingrid revient dans son pays... et montre déjà quelques prédispositions pour la jungle, puisqu'elle se lance en politique. Se lancer en politique en Colombie à l'époque, c'est considéré comme une pratique SM. Il faut composer avec la guerre civile, les cartels de la drogue, les milices d'extrême droite et le pire, l'explosion du reggaeton.
Ça m'a mis dans l'ambiance.
David, il démarre au quart de tour comme ça. Un peu de reggaeton, ça. Personne ne devrait subir ça, David. En plus, Ingrid s'est mis en tête de ne pas avoir recours à la corruption. Gros défi.
Ah oui.
Ah, parce qu'à l'époque, faire carrière en politique en Colombie sans utiliser la corruption, c'est comme si en France, un candidat allait au salon de l'agriculteur en disant « Alors, comment ça va les bouseux ?» C'est risqué, hein. Eh bien, vous savez quoi ? Elle y arrive quand même. Elle crée même son propre parti en 1998, est élue sénatrice et se déclare candidate à l'élection présidentielle de 2002. Ce parti, elle le baptise Partido Verde Oxigeno. Traduction, Stéphane ?
Le Parti Vert Oxygène.
Alors, on pourrait croire qu'avec un nom pareil, c'est un parti de gauche. Eh bien, détrompez-vous. C'est un parti centriste. On pourrait même dire un parti de centre dur. Vous allez comprendre. Parce que pour l'incarner, Ingrid Betancourt innove avec des méthodes bien à elle. Devinez ce qu'elle offre à ses électeurs dans les rues de Bogota pendant sa campagne. Trois indices. C'est bleu, les mamans l'adorent, et ce n'est pas le schtroumpf musclé.
Bleu, hein.
Qu'est-ce qu'elle pouvait distribuer dans les rues de Bogota pour sa campagne ?
Des flyers européens, je ne sais pas.
Pas du tout.
Ça se mange ?
De l'eau. Je vous ai dit un indice tout à l'heure, j'ai dit que c'était un parti de centre dur. Bah, distribuer du Viagra.
Oh, mais oui, c'est bleu.
Oui.
Ah, ouais, alors, c'est,
ah. Eh oui, du Viagra.
Mais on n'en utilise pas, nous. Alors,
non,
pas
c'est pas ce que c'est.
Arrêtez. Le Viagra, que Stéphane appelle la pilule du péché. Ou que David Castello-Lopez surnomme l'ami du petit déjeuner. Mais malheureusement, au cours de cette campagne, Ingrid Betancourt a aussi quelques idées bien pourries. Comme par exemple se rendre dans une zone récemment libérée de la présence des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Et le tout sans la moindre escorte pour sa sécurité. Mais non, il n'y a aucun risque, je vous jure. Et ensuite, on ira faire de l'acrobranche sans harnais dans la jungle. On finira par un cache-cache dans les quartiers pauvres de Medellín. Allez, qui me suit ? Là débute une longue captivité interminable. 2321 jours de privation, d'humiliation, de maladies pendant lesquelles Ingrid est retenue dans des conditions inhumaines dans la jungle colombienne. Mais heureusement, Ingrid n'est pas seule. Non, elle est même accompagnée par certains de ses collaborateurs faits prisonniers en même temps qu'elle. « Faut qu'on serre les coudes !» qu'elle leur lance. « Ouais, t'as raison, solidarité avant tout !» qu'ils lui répondent. « Mais non, t'as rien compris, j'ai ton coude dans les côtes, vire-le !» Oui, en fait, c'est pas la folle ambiance. Hein. La captivité à plusieurs, c'est finalement pas si facile. Rappelez-vous Secret Story.
Pourquoi tu veux me pousser à bout à
Mais pourquoi tu me parles comme ça?
Regarde-moi pas, je t'ai dit. J'ai pas envie de te parler, tu me regardes pas.
Mais
je me
parles correctement.
Mais tu me regardes pas.
On est. Oh, tu
ouais, mais
fou,
tu me
là.
Regardes pas.
Ils avaient une piscine et des transats pour bronzer à la plaine Saint-Denis et ils réussissaient à s'engueuler.
Alors, tu me regardes pas.
Regarde pas. Tu me salis. Hein? Alors imaginez dans la jungle, attachée et affamée. Ingrid cristallise la rancœur de ses camarades d'infortune. Elle est un peu l'otage vedette, dont le nom revient sans cesse à la radio. Ce qui a le don d'agacer ses co-détenus, qui vont jusqu'à réclamer qu'elle soit séparée du groupe. Elle se retrouve alors placée dans une cellule qu'elle occupe seule. Ce qui a le don d'agacer ses co-détenus, qui vont jusqu'à réclamer qu'elle soit réintégrée au groupe. Pendant ce temps, le sort d'Ingrid Betancourt émeut la communauté internationale.
Nous t'attendons, Ingrid, et nous pensons à toi. Et nous ne serons libres que lorsque tu le seras.
Renaud est concerné, mais moins la communauté colombienne. Pendant que le gouvernement français tente de négocier la libération directement avec les FARC, le gouvernement colombien en profite pour obtenir les positions des FARC et pour leur péter la gueule. Ouais, chacun ses priorités. Ingrid Betancourt est finalement libérée par l'armée colombienne le 2 juillet 2008. Un commando se faisant passer pour des humanitaires se pose dans le camp où elle est retenue. Mais Ingrid flaire un truc louche, au point de refuser, dans un premier temps, de monter dans l'hélicoptère venu la libérer. Et de faire capoter toute l'opération. Après 2321 jours de captivité, 5 tentatives d'évasion, Ingrid Betancourt retrouve enfin la liberté et sa famille. Enfin, surtout la liberté, puisqu'elle décide de larguer son mari. C'est horrible. Ouais. Avant de débarquer, elle a largué son mari. 15 minutes après, la descente de l'avion qui la ramène auprès de ses proches. Après une lente reconstruction, Ingrid Betancourt fait son retour en 2022 dans le paysage politique colombien en annonçant sa candidature à la présidentielle. Elle se retire finalement alors qu'elle était créditée d'environ 1% dans les sondages. Aux dernières nouvelles, elle aurait monté un groupe de parole avec Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Mais ça reste à vérifier.
Oui. Mais on dit pas qu'elle a un peu zoom-zen avec des FARC dans la jungle ?
Je suis pas sûr qu'elle ait fricoté, je crois qu'elle a subi des choses pas très...
Mais parce que ça, celle qui était avec elle, qui s'appelait Clara Rojas, elle a eu un enfant d'un FARC, je crois.
Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle largue son mari alors qu'il s'était battu toutes ces années.
Ouais. Oui, mais en même temps, vous feriez pareil, Stéphane. On vous attache à un poteau dans la forêt de Fontainebleau, vous revenez, vous faites votre vie, c'est normal.
Mais non. Vous avez une vision horrible. Merci Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont vécu dans la jungle pour retrouver deux êtres qui vivent en ville. David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines de la flûte à bec.
Exactement.
Mais avant ça, comme chaque jour désormais, mes aïeux, quelle époque ! Aujourd'hui, on parle cuisine avec notre guide culinaire vivant, Olivier Pouls, et on remonte à l'époque de Cro-Magnon, à l'époque où les hommes et les femmes ont inventé la cuisine, tout simplement.
Tout simplement, voilà. On l'a vu ici, vous vous en souvenez peut-être, les tout premiers hominidés, hein, nos très 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 lointains ancêtres, il y a 7 millions d'années, se nourrissaient de ce qu'ils trouvaient dans la nature. Ils se penchaient hors des fruits, des racines, des plantes, des cadavres, de petits animaux, des insectes, mais ils ne modifiaient jamais l'état de ce qu'ils mangeaient. On peut donc dire qu'il ne cuisinait pas. Alors le premier à avoir eu l'idée, plutôt l'instinct de transformer ses aliments. Il est arrivé, lui, il y a 400 000 ans. Vous l'avez dit, nous le connaissons sous le nom de l'homme de Cro-Magnon. Alors, il n'est évidemment pas encore question de recettes très élaborées, mais d'une volonté consciente de préparer ce qu'il mange. Rappelons que l'homme de Cro-Magnon est capable de chasser, il est équipé de, d'armes assez performantes d'ailleurs. Faites-lui un assez gros consommateur de viande d'ailleurs, des oiseaux, mais aussi des mammifères sauvages. Et à cette époque, il commence à maîtriser le feu, et c'est évidemment cela qui va tout changer. Fini en grande partie la viande crue, potentiellement dangereuse et indigeste, place aux cuissons.
Place au barbecue, alors, en fait. Et puis là, c'est vraiment l'homme de Cro-Magnon.
Oui, mais alors, pas uniquement, comme vous allez le voir, parce qu'en matière de cuisson, eh bien, Cro-Magnon a plus d'un tour dans son sac, figurez-vous. Alors, la pierrade, cuisson à même les pierres très chaudes qui sont mises dans le feu, le four, en creusant un trou dans la terre sous les braises, à la braise directement, on a retrouvé des morceaux d'eau brûlés qui pouvaient servir de broche. Il maîtrise en fait un certain nombre de techniques. Il peut varier ses modes de cuisson en quelque sorte. Il sait bouillir ou rôtir sa viande. Et à ce titre, on peut dire que c'est donc lui qui invente vraiment la cuisine. Pas tout à fait la cuisinière, mais vraiment la cuisine. Et il ne se limite pas à la viande, figurez-vous, parce que des fouilles ont permis de découvrir qu'il savait aussi piler des petits grains ou des graines, ce qui lui permettait de confectionner des sortes de galettes qui étaient probablement cuites à même les pierres très chaudes ou même des bouillies dans l'esprit d'un peu d'un porridge qu'il réalisait dans des panses d'animaux avec de l'eau. Bon appétit. Bon, on est encore très loin de Top Chef, mais cette cuisine rudimentaire est évidemment un tournant dans l'histoire de l'homme.
Bon, elle n'a pas que des vertus gustatives.
Non, elle va beaucoup influer aussi sur sa santé, parce que la viande cuite est moins dangereuse à manger, et certains végétaux ont d'ailleurs besoin d'être cuits pour être ingérés. Alors en outre, la viande cuite est plus facile à mastiquer, ça va probablement faire évoluer sa mâchoire et sa dentition, et Cro-Magnon avait un besoin calorique élevé. Il était donc friand de graisse parce qu'il s'agissait de faire face à un climat hostile. Il a traversé quand même une petite période glaciaire, notre ami Cro-Magnon. Et il constituait d'ailleurs, autre recette, des bouillons de gras. C'est aussi à cette époque que va naître la socialisation du moment du repas autour du foyer. On pense que le fait de se réunir pour manger ensemble des aliments préparés a contribué à développer le langage né par nécessité de communiquer, puis peut-être parce qu'on s'ennuie aussi un peu. Et donc, même si l'homme maîtrise le feu et prépare ses aliments, il garde encore un intérêt pour le cru, et figurez-vous, même le pourri, parce que certaines viandes étaient consommées très faisandées, comme on dit maintenant, et il pouvait manger aussi le contenu d'estomac de petits herbivores qui, sous l'action des sucs gastriques, avaient fermenté. Il avait inventé une sorte de choucroute. Alors, si je vous en recèle.
Choucroute et l'eau à la bouche.
C'est horrible.
Mais la choucroute, c'est du chou fermenté. Hein. C'est des végétaux qui ont fermenté. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de la panse d'une vache.
C'est du vomi, en fait.
oui, un peu. Ouais.
Merci beaucoup, Olivier. On peut retrouver, évidemment, votre chronique et toutes les autres sur europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine, Olivier Pouls, mais avec vous maintenant, David Castello-Lopez, les origines de la flûte à bec, comme vous avez promise.
Oui, la flûte à bec, c'est le paria des instruments de musique. On dit flûte à bec et direct on rigole et on se moque. C'est comme évoquer Francky Vincent ou les Hauts-de-France. Vous voyez, c'est rigolo.
Oh non, je me moque pas, moi.
Et bien sûr, cette salissure de la réputation de la flûte à bec, elle vient directement du fait que ça a été pendant des dizaines d'années l'instrument des cours de musique au collège, avec des générations et des générations d'enfants qui ont massacré des mélodies les unes après les autres, à commencer par moi-même et ma classe, comme on peut s'en rendre compte dans cet enregistrement de 1994 où je joue Over the Rainbow avec mes camarades.
J'ai une oreille qui saigne.
Oui, il y a une très 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 fausse note à la fin en particulier. Bien sûr, le fait qu'il y ait plein de flûtes, ça gomme un petit peu le fait que tout le monde joue mal. Mais quand même, c'était pas top. Et pourtant, la flûte à bec, quand c'est bien joué, c'est super beau.
Ah oui ?
Écoutez par exemple la partita pour flûte seule en la mineur de Jean-Sébastien Bach, jouée par un flûtiste belge qui s'appelle Jean Van Hocke. Ça peut être très beau quand même, vous voyez.
Ça donne envie de manger du jambon.
Mais tout à fait, de la hoste. Mais alors, d'où ça vient cet instrument affreux et en même temps joli? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est l'instrument qu'on a choisi pour que les écoliers massacrent la musique avec? Alors déjà, la flûte, c'est le plus vieil instrument du monde. À l'exception des percussions, mais comme tous les percussionnistes le savent, la percussion, c'est pas vraiment un instrument de musique, puisqu'on peut pas faire de mélodie. C'est une sorte de sous-instrument de musique, nécessaire, mais pauvre. Les plus anciennes flûtes retrouvées, elles sont vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors, c'était des flûtes rudimentaires, hein, puisque c'était des os évidés avec des trous pour les doigts, mais c'était quand même déjà des flûtes avec toutes les caractéristiques de la flûte. Ensuite, la flûte a connu des évolutions successives, et au Moyen-Âge, elle s'est fixée à peu près sur ce qu'on connaît aujourd'hui. Et là a commencé un âge d'or de la flûte à bec qui a culminé au XVIIe siècle, à l'époque de la musique baroque. Et c'est pas pour rien donc que le joli morceau de flûte à bec que je vous ai mis tout à l'heure, c'est un morceau de musique baroque. À partir du XVIIIe siècle, pourtant, la flûte à bec a été supplantée par une autre flûte mieux, qui s'appelle la flûte traversière, et qui a vraiment, la flûte à bec a disparu, remplacée par celle-ci, et donc c'était un petit peu une sorte d'hiver de la flûte à bec. Mais la flûte à bec est revenue en force à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Pourquoi? Eh bien parce que la musique baroque, qui avait été en gros complètement oubliée pendant 150 ans, elle est revenue en force, avec plein d'ensembles qui ont commencé à rejouer les partitions d'époque avec des instruments d'époque. Donc, renouveau de la flûte à bec. Reste quand même une question, pourquoi est-ce qu'on nous a foutu une flûte entre les dents au collège? Eh bien, c'est très documenté. C'est à cause d'un compositeur allemand qui s'appelait Karl Orff. Vous connaissez Karl Orff?
Bien sûr, de Carmina Burana.
Exactement! Karl Orff, c'est le monsieur qui a composé Carmina Burana, gros tube utilisé dans une très très grande quantité de films, un peu héroïque. Mais Karl, il a aussi été pédagogue et il a promu le fait que la musique, elle devait être enseignée à tout le monde et en particulier aux enfants. Alors traditionnellement, l'enseignement de la musique, il commence par du solfège relou, mais dans les années 20, Karl et ses amis se sont dit « Non, le mieux, ce serait que les enfants, ils soient en contact direct avec l'instrument pour pouvoir kiffer tout de suite, improviser, ressentir le rythme, les émotions, tout ça. Un peu en mode, si vous voulez, Montessori de la musique. Et le truc, c'est que la flûte à bec soprano, qui est celle qu'on connaît, qu'on avait au collège, elle est idéale pour cette méthode, pour plusieurs raisons. Première chose, c'est qu'elle fait les mêmes notes que la voix des enfants. C'est la même tessiture. Donc, on peut commencer par chanter les notes et ensuite les jouer à la flûte. Ça fait exactement la même chose. Et puis, on n'a pas besoin de l'accorder. Elle est immédiatement prête à l'emploi, la flûte, contrairement à la guitare. C'est aussi le cas du piano, mais un piano, c'est quand même sacrément moins transportable.
Parce que si chaque élève doit venir avec
un piano, voilà, ça serait un petit peu embêtant. C'est aussi très facile d'en jouer. Si on souffle dedans pas trop fort et qu'on place ses doigts correctement, ça marche tout de suite. Et en plus, la flûte à bec, elle permet de mettre l'accent sur la base de la musique, à savoir le rythme et la mélodie, sans aborder la notion quand même vachement plus compliquée des accords, c'est-à-dire de l'harmonie. Et donc, c'est pour ça que c'est très adapté. Alors, la méthode de Karl Orff, elle s'est d'abord diffusée en Allemagne. Et puis, après la guerre, Orff et ses amis, ils ont écrit des manuels qui ont permis de diffuser sa méthode hors d'Allemagne et donc en France et dans le monde entier. Mais il y a un deuxième truc crucial qui a fait le succès de la flûte à bec dans les écoles, c'est le plastique. À partir des années 60, on a commencé à commercialiser des flûtes en plastique qui coûtaient rien du tout. Et quand on veut diffuser un instrument en masse chez des élèves, c'est quand même pratique d'avoir quelque chose qui coûte moins de 10€ plutôt que des trucs qui en valent plusieurs centaines. Et donc pendant des dizaines d'années, à peu près tous les élèves du monde occidental ont joué de la flûte à bec. Mais aujourd'hui, le nouvel hiver de la flûte à bec est arrivé. Depuis 2008, elle n'est plus obligatoire au collège en France parce qu'au fond, personne ne l'aime, ni les enfants qui considèrent que c'est un peu un faux instrument de musique, un joujou, ni les parents qui trouvent ça inaudible. Vous le disiez, Jean-Luc, que vous vouliez tuer les enfants qui jouaient de la flûte à bec. Moi, je trouve ça un petit peu triste qu'elle soit en train de décéder, la flûte à bec. Alors, dans une sorte de requiem, j'ai décidé de la faire revivre à l'antenne d'Europe 1 en demandant à Olivier Pouls, avec une flûte qui se trouve ici, de jouer l'ode à la joie à la flûte à bec. Ode à la joie que je vais moi-même accompagner avec une flûte beaucoup plus grosse, comme vous voyez ici. Est-ce que Olivier, vous êtes prêt?
Bon, on va essayer.
On va essayer. Ok, c'est parti.
On y va.
Mmh.
Voilà. Donc c'est bien Olivier Pouls qui jouait faux. D'accord.
On a passé un moment désagréable.
Non,
mais c'est plutôt. Il y a cette petite nostalgie, du collège.
Je dois vous avouer, je n'ai jamais eu la moyenne en musique.
Ah, non plus,
ça c'est vu.
Ça c'est vu.
En fait, je crois que ça s'explique.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, Historiquement en Vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on revient demain, dès 16h, avec Jean-Luc Lemoine et toute l'équipe, et surtout trois nouveaux personnages qui ont eu le déclic de la photo. L'écrivain Émile Zola, qui à la fin de sa vie s'est passionné aussi pour la photographie. L'acteur Dennis Hopper, qui emportait son appareil photo partout avec lui.
Et moi, je vous raconte un animateur télé qui fait de la photo ou un photographe qui fait de la télé. C'est selon. Votre ami Stéphane.
Ah oui, c'est mon ami. Oui.
Nikos Aliagas.
Ah oui, je l'aime. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir, mais en tout cas, que vous fassiez son portrait. On verra bien demain. Demain est un autre jour. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.